Quel est le point commun entre la baie de l'Aiguillon, les hauts plateaux du Vercors, les gorges de l'Ardèche ou encore la Camargue? Petit indice, en France, nous habitons en moyenne à moins de 30 km. Et oui, nous partons à la découverte aujourd'hui d'une réserve naturelle, la seule réserve naturelle d'ailleurs de la Vienne, le Pinail. Et je reçois pour ce faire Camille. Bonjour Camille.
Bonjour.
Alors je te laisse te présenter.
Alors je suis éco-médiatrice pour GEREPI, l'association de gestion de la réserve du Pinail.
Ok, donc tu veux nous expliquer, alors qu'est-ce que le Pinail?
Alors le Pinail, c'est une vaste étendue de mares et de landes. Donc on a 6000 mares sur la réserve. La réserve du Pinail, c'est un statut qui a été obtenu en 1980. Et il faut savoir que c'est un paysage qui a été entièrement façonné par la main de l'homme. Donc entre 850 et 1850, on a fait de l'extraction de pierres meulières. Donc c'était des pierres qui servaient à faire des meules de moulin pour écraser le blé, pour faire de la farine ensuite et du pain. Et puis ensuite, les trous se sont naturellement comblés avec l'eau de pluie. Et donc, on peut observer ce paysage criblé de mares aujourd'hui.
D'accord. Donc oui, c'est un paysage, c'est vaste. Hein, c'est sur combien d'hectares
Alors, la réserve s'étend sur 142 hectares. Et on a aussi le statut Ramsar, donc un statut qui est de reconnaissance des zones humides. Et donc là, on est sur plus de 900 hectares au total.
D'accord. C'est énorme. Et puis, il y a quoi, 6000 ou 3000 fosses permanentes, hein, je crois.
Voilà, c'est ça. Donc on a 6000 mares environ et puis 3000 qu'on peut considérer comme permanentes, qui sont en eau quasiment toute l'année.
D'accord, donc tu nous parlais de l'association. Alors GEREPI, c'est la gestion de la réserve naturelle nationale du Pinail. Voilà, donc tu as une équipe avec toi, vous travaillez toute l'année sur place.
Voilà, alors on a un conservateur, donc Kevin Lelarge, qui s'occupe de la gestion du site, d'appliquer le plan de gestion, donc c'est ce qui permet de contrôler un petit peu nos actions sur la réserve. On a Yann Cellier qui est donc le responsable de mission scientifique, et donc lui il va beaucoup travailler sur les inventaires, sur le suivi d'espèces, entre autres. Et ensuite on a un agent d'entretien, Christophe Pinault, qui va être tout le temps sur le terrain pour s'occuper de la brande, la coupe, les pare-feux, comme on fait du brûlis dirigé sur la réserve. Et ensuite, on a aussi une secrétaire comptable à mi-temps et des stagiaires et des services civiques qui nous épaulent une partie de l'année.
Bah oui, parce que c'est, on appelle ça les terres de brande, hein, je crois. Donc ça s'entretient en fait tout au long de l'année.
C'est ça. Donc la brande, ça réfère à la bruyère à balai, entre autres. Et donc cette brande sur le Pinail, on est obligé de l'entretenir, sinon tout le milieu se referme petit à petit, donc on perdrait les mares et toute la biodiversité associée. Donc on a plusieurs méthodes de gestion pour ça. On va faire de la fauche. On a aussi un troupeau de moutons qui est là pour pâturer voilà, une grande zone de la réserve. On fait du brûlis dirigé. Donc là, c'est mettre le feu à un certain secteur à l'automne. Et ensuite, on a aussi un secteur qu'on laisse en libre évolution pour que toutes les espèces puissent s'y plaire.
Justement, par rapport à toutes ces espèces, je crois qu'il y en a plus de 1800, non?
Oui, alors même, on peut dire plus de 2500. Vraiment, on a une énorme richesse en espèces sur le Pinail. Et donc parmi celles-ci, par exemple, on peut citer chez les libellules, la leucorine. Donc on a deux espèces de leucorine, ce sont des espèces protégées en France et qui sont assez rares. On a aussi des tritons, donc plusieurs espèces de tritons, tritons marbrés, crétés, palmés, un hybride entre...
Les tritons, pour les auditeurs, c'est comme des lézards.
Donc ouais. Voilà, ce sont, on peut dire qu'ils ressemblent à des lézards. C'est la famille des amphibiens, donc la même famille que les grenouilles. Et on va les rencontrer effectivement dans l'eau au printemps, en saison de reproduction.
On a aussi des écrevisses, des cigales, des crapauds, des rapaces.
Oui. Donc on a l'écrevisse à pied blanc, effectivement, ouais. Qu'on peut retrouver sur le Pinail. Et c'est le dernier endroit au monde où on peut en trouver en eau stagnante. Donc ce qui fait que voilà, on a un gros enjeu sur ces écrevisses à pied blanc. On fait un suivi chaque année, du coup, pour essayer d'évaluer la population. C'est pas évident parce que du coup, c'est une espèce qu'on va plutôt observer la nuit. Et comme on va limiter le dérangement, on va observer en surface. Donc, c'est pas évident à détecter. Donc, difficile à estimer, mais on espère que la population se maintient.
Oui, alors on a aussi des faucons, des busards, alors des circaètes. Ça, c'est le seul aigle nicheur de la Vienne.
Oui, tout à fait. Alors, le circaète, une petite anecdote sur celui-ci, c'est un rapace qui va se nourrir quasiment exclusivement de reptiles. Donc, il va contribuer aussi à réguler la population de reptiles sur le Pinail. Ensuite, on a les busards qu'on peut observer en ce moment au printemps, donc busard Saint-Martin, busard cendré. Donc un rapace pour le mâle qui est gris avec le bout des ailes noires, voilà ce que vous pouvez observer sur le Pinail. La fauvette pitchou aussi, c'est un petit oiseau que vous pouvez observer qui a un œil orangé et qu'on peut voir souvent perché en haut de la bruyère à balai. Donc c'est un oiseau qui niche à peu près à 1,50 m du sol. Donc ça fait partie aussi, par exemple, de nos méthodes de gestion. On doit penser un peu à toutes les espèces. Donc essayer de maintenir le milieu pour qu'il soit favorable pour ces nichés-là aussi.
Et puis, comme tu l'as dit, des libellules. Oui, puis le cerf et l'aaf.
Voilà, tout à fait. Qu'on peut entendre bramer. Donc septembre-octobre, c'est un grand terrain de jeu pour lui. Il va avoir besoin d'un terrain ouvert pour pouvoir bramer pendant la saison de reproduction. Donc on peut le rencontrer sur le pinail. Et c'est vrai qu'on pourrait parler aussi des papillons. On a un petit papillon en particulier qui s'appelle l'azuré des moulières. Donc les azurés, ce sont les petits papillons bleus qu'on peut observer aussi dans nos jardins. Et on a plusieurs espèces. Donc l'azuré des moulières, c'est une espèce qu'on ne trouve quasiment plus en Poitou-Charentes, qui va pondre sur la gentiane pneumonante. Donc c'est une fleur violette. Et ensuite, la chenille va descendre de la plante et va émettre des phéromones qui la font passer pour une fourmi. Donc on a une espèce de fourmi en particulier. C'est assez particulier, voilà.
Ouais,
c'est très particulier. Et donc la chenille est recrutée par les fourmis dans la fourmilière. Elle va passer un hiver ou deux nourrie, logée.
Ah oui, elle va être bien entretenue. Ouais,
voilà, c'est ça.
Ah, c'est marrant.
Et puis après, elle se transforme en papillon au printemps. Et donc, elle est obligée de sortir très vite parce que là, les fourmis comprennent un petit peu le superfuge. Et voilà, c'est pour montrer aussi qu'il y a beaucoup d'espèces qui dépendent des autres, les unes des autres. Et donc, c'est important de prendre en compte ces interactions.
Ouais, parce que alors c'est vrai qu'on va on va continuer la liste, qu'il y a aussi toute la flore, mais j'aurais que tu nous parles après, voilà, de ces interactions qui sont tellement importantes. Donc dans la flore, alors là c'est pareil, je crois qu'il y a plus de 450 espèces de plantes. Alors on en a une qui est rare. Comment c'était l'aspirante d'été?
L'aspirante d'été, donc une orchidée on a juste un petit secteur où on peut en trouver sur la réserve. Donc pareil, on fait un suivi ciblé sur l'aspirante d'été. Donc il faut compter les pieds pour voir comment se porte la population. Puis il y a plusieurs espèces. Donc celle-ci, c'est une petite orchidée qui fait des petites fleurs blanches.
Et j'ai vu qu'il y avait aussi alors là, une plante carnivore qui pousse dans les sphaignes.
Ouais. Oui, c'est ça. Voilà. Donc c'est la Drosera ou Rousselia à feuilles rondes. Et donc c'est une... vous pouvez l'observer en juin sur la réserve. Et elle va pousser sur les tourbières, par exemple. Donc il lui faut un tapis de sphaignes. La sphaigne, c'est une mousse qui peut retenir plus de 15 fois son poids en eau. Donc on imagine bien le rôle qu'elle peut avoir sur une zone humide. Et donc la Drosera, cette plante carnivore, va pouvoir pousser sur ce tapis de sphaigne, sur une tourbière. Donc la tourbière, c'est un milieu très acide, des milliers d'années, des fois d'accumulation de végétaux. Donc c'est la tourbière, c'est un milieu humide qui retient plus de carbone qu'une forêt, par exemple.
Ah oui.
Donc on imagine bien son rôle à l'échelle de la rétention de carbone. C'est très important de les préserver. Oui, alors c'est une zone humide d'importance mondiale. Donc c'est le statut Ramsar qu'on a obtenu, qui permet de confirmer ça.
Alors justement, on en parlait tout à l'heure, c'est important toutes ces espèces de les préserver parce qu'il y a des interactions entre elles et c'est un enjeu, c'est important pour la réserve, ces interactions entre espèces.
Oui, complètement, oui. En fait, de certaines espèces dépendent les autres. On a besoin d'une régulation naturelle aussi entre elles. Donc voilà, on parlait de l'azurée des moulières avec le papillon et la fourmi. Donc ça, c'est vraiment des interactions très très complexes entre les espèces et qui vont dépendre aussi du changement climatique. Donc dès que vous avez par exemple une sécheresse, la fleur est impactée, donc le papillon aussi. Donc tout est imbriqué sur cette réserve. Et heureusement que voilà, on a des espèces prédatrices qui peuvent gérer d'autres populations. Donc tout ça nécessite
un
certain
équilibre. Mais il y a toute une chaîne
alimentaire, parce qu'en fait... On a des espèces qui sont spécialisées pour prédater d'autres. Par exemple, on a le faucon aubreau, donc un petit faucon. Lui, il va beaucoup se nourrir de libellules. Donc, il va pouvoir gérer un peu la population de libellules, entre guillemets. Tout est un peu imbriqué. Donc, on va avoir certains serpents qui vont se nourrir de grenouilles, d'autres plutôt spécialistes de rongeurs. Et ce qui fait que chacun a sa spécificité d'alimentation. Donc, tout le monde peut y trouver son compte, au final, dans cette chaîne alimentaire.
Et là, aujourd'hui, elle se porte bien, cette réserve? Comment elle va?
Alors, on observe forcément un gros impact du changement climatique sur la réserve. Comme on est sur un plateau, on dépend uniquement, en termes de ressources en eau, de l'eau de pluie. Donc, on n'a pas d'eau de ruissellement. C'est un avantage parce que du coup, on a moins de pollution, l'eau est de meilleure qualité. Mais du coup, l'été, on fait face à beaucoup d'assecs pour les mares. Donc aujourd'hui, on est dans une situation où ça peut être assez compliqué suivant les années. On n'a pas forcément un remplissage très régulier l'hiver non plus. Donc voilà, tout ça, ça a un impact sur les mois d'été.
Alors on est très proche de Châtellerault en fait. Hein. On est sur Vouneuil-sur-Vienne.
C'est ça, voilà, donc à 15 minutes à peu près de Châtellerault.
Eh bien, écoute Camille, on va faire une petite pause musicale. On va écouter « Droit comme un arbre », un titre de l'album « La caravane passe » feat. Trio.
Debout les aînés de la terre, fait du même bois coiffé de verre. Des temps, des millénaires, les arbres nous soufflent cet air, les arbres nous soufflent cet air. Fils de feuillus ou fille de lierre, qu'on soit tordu ou conifère, unissez-vous d'un tronc commun, le droit des arbres et du terrien, le droit des arbres et du terrien. Ses frères soulèvent une forêt de soldats de bois qui rompt mais ne plie pas, dont les racines guident les pas. Sous les pavés, les marronniers, des saules frondeurs sous les palmiers, que les grands chênes se libèrent et que nos voix chantent cette terre. Les aînés de la terre.
Vous êtes toujours sur REC 103.7 avec Camille de l'association Jérépi qui vient nous parler ce matin de la réserve naturelle du Pinail. Alors dis-moi Camille, il y a aussi des animations dans cette réserve et je crois qu'il y en a une mais qui doit faire un malheur, l'animation qui s'appelle le petit explorateur du Pinail, tu nous la présentes ?
Oui, c'est ça. Donc, en vacances scolaires, on propose une animation qui s'appelle le petit explorateur du Pinail. Donc là, c'est en autonomie. Donc ça vous permet de partir en famille découvrir ce site naturel. Donc on vous prête un sac à dos d'explorateur, des jumelles enfants-adultes pour pouvoir observer les espèces que vous rencontrerez. Pardon. Et donc vous avez un petit carnet d'activités à faire avec les enfants. Et aussi un guide qu'on vous prête pour identifier certaines espèces que vous pourrez observer sur la réserve. Donc c'est un sac à dos sur réservation, une activité gratuite. Et donc on la propose pendant juillet et août, là, cet été. Voilà, vous pourrez retrouver sur notre site internet pour vous inscrire.
Ok, Ro, tu peux donner le site internet, ça sera fait,
www.reserve-pinail.org.
On va vérifier ça. On vous redonnera à la fin. Donc ce petit sac à dos, c'est marrant parce que c'est à partir de quel âge d'ailleurs tu...
À partir de 4-5 ans, dès qu'ils peuvent voilà, lire un petit peu, il y a des jeux de plusieurs niveaux dans le carnet. Donc ils peuvent faire aussi avec les parents.
Ils peuvent participer, voilà. Ils se transforment en géologue, en naturaliste, hein, donc c'est rigolo. Mm-hmm. Et puis s'il y a des énigmes, hein, je crois, c'est donc très ludique.
Oui, c'est ça. Et puis ça permet petit à petit d'en apprendre plus sur les espèces, de sensibiliser à la nature, de déconnecter un petit peu, de se retrouver en famille dans un espace naturel.
Voilà, de poser le téléphone.
Tout à fait.
Et puis de partir à la découverte de la réserve. Et il y a aussi alors une animation que vous allez proposer là bientôt, donc le 23 mai. Je te laisse nous la présenter.
Alors c'est une animation dans le cadre de la fête de la nature. Donc la fête de la nature en 2026, elle se déroule du 20 au 25 mai. Donc en France. Et donc nous, on propose le samedi 23 mai de 10h à midi une animation sur les reptiles. Donc sur la réserve, on peut retrouver 8 espèces de reptiles qu'on suit aussi en suivi scientifique. Donc vous allez pouvoir croiser le lézard vert, le lézard des murailles, la vipère aspic, la couleuvre verte et jaune, couleuvre vipérine, couleuvre à collier qu'on appelle aussi la couleuvre helvétique, la cistude d'Europe qui est une tortue et un orvet aussi qui est quelque chose qui s'apparente au serpent. Donc plusieurs espèces sur le pinail. Et donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on pose des plaques à reptiles. Donc on en a 96 sur la réserve, donc ce sont des plaques en fibro-ciment. Et donc les reptiles, comme ce sont des animaux qui sont à sang froid, qui sont ectothermes, donc qui vont avoir besoin de réguler leur température avec la température extérieure, ils vont apprécier ces plaques pour pouvoir se mettre dessous. Pour eux, c'est vraiment un petit îlot de chaleur. Voilà. Et donc on va pouvoir les soulever pour pouvoir observer les espèces qu'on rencontre et faire un suivi temporel.
Oui, oui, alors j'étais en train de me dire, voilà, hein, si on a une plaque de fibro-ciment, attention, si on soulève, il peut y avoir des espèces qui viennent se réchauffer dessous. Alors, bon, c'est un sujet, hein, il y a beaucoup de phobies. C'est important de les découvrir.
Ah oui, oui, complètement. Alors, les serpents, ils font vraiment partie de l'équilibre des interactions entre toutes les espèces. Les serpents, certains se nourrir d'amphibiens, d'autres de rongeurs, et donc ils participent vraiment à la chaîne alimentaire. C'est pour ça aussi qu'on les suit, bien sûr, scientifiquement, ce sont des espèces protégées.
Oui, alors justement, je crois qu'il y a des couleuvres, alors des couleuvres, à ne pas confondre, la couleuvre vipérine. Donc, elle est souvent confondue avec la couleuvre aspic, et justement, vous expliquez tout ça.
Voilà, c'est ça. Donc ça permet d'en apprendre plus sur les serpents. Et puis plus on a de connaissances, plus on a d'informations sur les espèces, ça aide à vouloir les protéger, à mieux les apprécier. Du moins on espère, voilà, c'est le rôle dans nos missions. Et donc effectivement, la couleuvre vipérine, c'est une couleuvre, donc elle est non venimeuse, mais elle a physiquement, enfin morphologiquement, une apparence de vipère. Donc ça, des fois, elle peut être confondue avec. Et du coup, pour la différence entre vipère et couleuvre...
Parce que j'allais te demander.
Donc voilà, donc déjà à la taille. Donc souvent, la vipère est plus petite que la couleuvre, plus fine. Après, il faut regarder au niveau de la tête. Donc on a les yeux qui sont vraiment pupilles horizontales chez la vipère. On a des écailles qui sont beaucoup plus serrées chez la vipère que chez la couleuvre au niveau de la tête. Ensuite sur le museau aussi, la vipère va voir le petit museau retroussé vers le haut. Donc ça voilà, bon, vous me direz, des fois on n'a pas le temps d'observer tout ça sur le terrain.
Oui, on était déjà en train de partir en courant à l'opposé, mais oui,
voilà, si où le serpent s'enfuit très vite.
On regarde la tête, les écailles.
Ouais. C'est ça, voilà, l'allure générale du serpent. Et puis voilà, après, souvent le serpent est mal perçu, mais encore une fois, si on ne le dérange pas, il n'y a pas de raison d'avoir de... Voilà, de se faire mordre par un serpent.
Il a son utilité, comme tu disais, dans la chaîne alimentaire. Donc, il y a aussi les... Alors, il y en a qui vivent sur le sol, il y en a qui vivent dans l'eau, hein, je crois, dans la réserve, aussi des espèces qui vivent dans l'eau.
Oui, 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 tout à fait. Donc, on a la couleuvre à collier ou couleuvre helvétique. Donc, celle-ci, elle va avoir vraiment comme un collier blanc et noir sur le cou. Donc, ça permet de l'identifier. Et donc, on va pouvoir la voir nager dans les mares. C'est une excellente nageuse. Elle va se nourrir d'amphibiens en partie, donc ça lui permet voilà, de pouvoir subvenir à ses besoins alimentaires. La couleuvre vipérine aussi est aquatique, donc celle-ci aussi, vous pouvez l'observer en bord des mares et même dans l'eau. Et donc voilà, elle participe bien sûr à l'équilibre des espèces, donc elles sont très très importantes.
Le niveau de l'eau diminue dans ces mares sur l'été?
Oui, complètement. Ouais, donc voilà, l'été, on a des mares qui se retrouvent à sec. Ouais. En comparaison, par exemple, on a fait un travail de recueil de mémoire sur le pinail, et donc on nous a donné un article de 1976 qui était caractérisé comme une année très chaude pour l'époque. Et dans l'article de journal, on disait que toutes les mares sur le pinail étaient en eau. Donc pour une mare pour une année qui paraît très sèche à l'époque, toutes les mares étaient en eau, donc ça montre bien l'évolution du climat actuel.
Oui.
Et donc forcément, ces mares à sec, ça va beaucoup impacter nos espèces. Donc c'est une problématique qu'on prend vraiment en compte dans nos recherches.
Bon, on a parlé des serpents, ça y est, ça c'est fait. Bon, c'est vraiment, voilà, même si on en a peur, je pense qu'il faut aller se renseigner. C'est le bon endroit hein, pour en apprendre. Et...
Alors, si vous faites une visite guidée, donc encadrée, avec une personne de la réserve, vous avez des jumelles, du coup, vous partez en visite avec nous sur le sentier. Donc, c'est un sentier de 2 km. Vous pouvez venir aussi en libre accès, il est tout le temps ouvert. Donc, vous pouvez venir en autonomie. Et donc, vous allez avoir un chalet d'accueil cet été. Vous pouvez venir nous rencontrer voilà, sur les horaires d'ouverture. On peut vous donner des informations sur les espèces que vous pouvez voir actuellement, par exemple.
Voilà, et donc là, de toute façon, dans le cadre de cette animation de la fête de la nature, au mois de, du 20 au 25 mai,
mm-hmm,
c'est ça ? Ouais. Là, on a, l'animation est prévue, donc avec le guide et on a les jumelles, on a tout ce qu'il faut. Donc, il y a les serpents, il y a aussi les lézards. Donc, tu nous disais, on a pas mal de... Il y a plusieurs espèces aussi de lézards ou de tritons,
Oui, alors, donc, dans les reptiles, les lézards, on a le lézard des murailles, donc c'est celui que vous pouvez rencontrer habituellement chez vous, le petit lézard marron.
On le connaît, voilà.
Voilà, on a le gros lézard vert. Donc le gros lézard vert, c'est un lézard qui est très très beau. Le mâle, en période de reproduction, au printemps, il va avoir au niveau de la tête des reflets bleus très vifs. Donc c'est vraiment magnifique. C'est un lézard que vous pouvez observer sur le Pinay. Alors il faut juste ne pas faire trop de bruit, il est quand même assez discret. Et donc souvent vous entendez les fourrés bouger. Donc vous savez que c'est un lézard qui est passé très très vite. Et c'est très chouette à observer.
Alors, on n'est plus dans les serpents, mais les cistudes. Hein, donc, tu rappelais qu'il y avait des tortues.
Mmh. C'est ça. Donc, alors, les cistudes, elles vont avoir besoin, pareil, de se réchauffer au soleil, comme elles sont à sang froid aussi. Et donc, c'est très difficile à détecter parce que, pareil, c'est un animal qui est très discret, assez craintif. Donc, dès qu'il entend quelqu'un approcher, il va vite retourner dans l'eau. Donc, pour nous, c'est difficile à observer. Elle a été très peu vue sur le site, mais on sait qu'il y en a. Après, il y a des possibilités de détection par drone aussi, thermique. Nous, ce n'est pas forcément très efficace, parce qu'avec toute la lande qu'on a autour, et puis le fait que la tortue ne remonte que de temps en temps, c'est très difficile à détecter. Mais on sait en tout cas qu'on a de la cistude sur le site.
La cistude. Et pour finir, moi, je les trouve trop mignons, les tritons.
Mm-hmm.
Les tritons. Il y a pas mal de, d'espèces et de variétés, hein, différentes, je crois.
C'est ça. Donc voilà, on a plusieurs espèces. On va avoir des grands tritons. Donc on a le triton marbré, donc un dos marbré de vert avec une ligne orange dorsale chez la femelle et une belle crête chez le mâle. On va avoir le triton crêté, donc qui a un ventre jaune avec des points noirs, donc vraiment très très beau aussi. On a un hybride entre les deux qu'on appelle le triton de Blasius. Et on a aussi un petit triton, donc c'est le triton palmé. Donc chez le mâle, en période de reproduction, on a des petites pattes arrière qui sont vraiment palmées, un petit filament au bout de la queue. Un très très beau triton aussi qu'on aime bien observer. Et donc on a des suivis spécifiques sur les tritons. Donc comme ce sont des espèces nocturnes, ce sont des suivis qui vont se dérouler le soir. Donc l'objectif, c'est de voir un petit peu l'évolution des populations de tritons sur la réserve.
Donc les tritons, et puis alors bon là ça fait pas de bruit, hein, mais on en a qui chantent hein, ici, hein, je crois. Qui c'est qui chante? La rainette ou le crapaud? Qui c'est qui fait du bruit? Les grenouilles vertes.
Mm-hmm.
Et aussi voilà toutes ces grenouilles, rainettes...
C'est ça. Donc voilà, on a beaucoup d'espèces d'amphibiens, de grenouilles aussi. Donc on va avoir le complexe des grenouilles vertes. Donc là, on a plusieurs espèces aussi. On a la grenouille rieuse, la grenouille de l'Esson et un hybride entre les deux, l'Esculentus. Donc on a des suivis spécifiques d'ailleurs qui se déroulent en ce moment, donc au printemps. On va avoir les grenouilles rousses aussi. La grenouille agile, c'est une petite grenouille marron avec un petit masque de Zorro noir sur le coton. Voilà, très très belle. Une très belle grenouille.
La plus sexy des grenouilles.
Voilà, c'est ça. Et puis ensuite, la rainette arboricole. Donc c'est une rainette qui fait beaucoup de bruit, effectivement, le soir, qu'on entend bien en période de reproduction. Et les crapauds, donc crapauds épineux. Et puis le crapaud calamite aussi, qu'on peut entendre sur la réserve.
Ah oui, ça fait un joli concert, non, le soir, aussi
Ah oui, complètement.
Oui, oui, oui.
Voilà.
Ça chante toute la... Non, c'est quand période de reproduction que ça... Ça oui, chantonne,
Oui, essentiellement en période de reproduction, parce que c'est là qu'elles vont avoir un intérêt à chanter, pour trouver un partenaire, marquer le territoire. Et donc c'est vrai que si vous allez sur le Pinay en fin de journée, c'est assez impressionnant le bruit que vous pouvez avoir avec tous ces amphibiens autour de vous.
Alors, donc ça, on a bien compris, et donc c'est génial, on va pouvoir venir découvrir l'animation sur les reptiles, mais je crois qu'il y a plein d'autres animations, de vous proposer aussi pas mal d'autres choses.
Oui, 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 complètement. Alors là, si vous allez sur notre site internet, vous pouvez retrouver les sorties mensuelles. Donc c'est une sortie par mois. Et ensuite, il y aura le programme de l'été qui va sortir. Et donc, dans les prochains mois à venir, on va aussi faire une sortie papillon en juillet. Et ensuite, on propose une animation chauve-souris, par exemple, en août, le brame du cerf à l'automne. Donc voilà, c'est des sorties auxquelles vous pouvez participer, qui sont très chouettes aussi. On a aussi un groupe des Amis de la Réserve. Donc là, c'est un groupe bénévole sur adhésion libre. Et donc, on propose une sortie par mois, plus spécifique à ce groupe-là, la possibilité, par exemple, de nous accompagner sur certaines missions. Donc c'est un bon groupe dynamique qui permet d'être un peu plus ancré dans la vie de la réserve.
Actif, ouais, dans l'association.
Donc toutes nos sorties sont gratuites sur inscription. Donc on a une plateforme HelloAsso pour pouvoir s'inscrire en amont. Donc n'hésitez pas à consulter notre agenda en ligne sur le site internet pour avoir accès à tout ça.
Alors justement, on va redonner les informations et les détails pour se rendre aux animations. Donc le site internet, effectivement, c'est bien reserve-pinaille.org. Et concrètement, quand on veut venir, donc on vient sur Vouneuil-sur-Vienne, on suit le panneau chalet d'accueil.
Ou sinon le panneau réserve naturelle du Pinaille. Donc ça vous amène directement effectivement au chalet d'accueil. Et donc là vous allez pouvoir stationner. Et puis ensuite donc tout le groupe se réunit à cet endroit-là. On peut distribuer des jumelles, des explications sur le Pinaille. Et ça vous permet en visite guidée d'avoir un historique des activités qu'il y a eu sur le site. Parce qu'on a eu énormément d'activités diverses sur le Pinaille. Et ensuite, de pouvoir partir sur une balade avec la thématique de la sortie.
Trouvez tous ces éléments, je vous disais, sur le site internet. Merci beaucoup, Camille, pour ta venue et pour toutes ces explications.
Merci à toi.
Rencontres, échanges et paroles d'acteurs locaux. Place à l'interview.